Chers amis, bienvenue dans notre émission Marque-Page. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, une balade dans le monde du livre en Lorraine. Mais aujourd'hui, nous allons quitter le studio. Et je vous emmène en vieille ville de Nancy. Grande rue, pour ceux qui connaissent la grande rue à Nancy, c'est vraiment le cœur historique de notre bon Nancy. Dans un établissement sympa qui s'appelle le Lézard. Il y a quelques jours, s'était donné rendez-vous au Lézard, tous les passionnés de la science-fiction. Et ils avaient répondu à l'invitation des éditions La Cour, édition La Cour bien connue à Nîmes, et notamment la collection L'Imaginaire, La Cour de l'Imaginaire. Et cette collection est animée par un trio dynamique et sympathique, Raymond Hiss et Josette Hiss, et puis Nathalie Harley. Alors, ce trio, en accord avec la direction des éditions La Cour, a eu l'idée pour promouvoir cette littérature de science-fiction de créer un prix qu'ils ont appelé, tout bonnement, le prix de la Cour de l'Imaginaire. Et ce soir-là, ils réunissaient des auteurs primés par ce fameux prix, la Cour de l'Imaginaire, les auteurs primés en 2012, en 2013. Alors, je devrais dire les auteurs, parce que ce sont des auteurs féminines qui ont été primées. Et puis, ils avaient également invité une auteure pour un ouvrage de science-fiction qui avait été remarqué très récemment et qui fait partie un peu de cette promotion 2014. Alors nous allons aller à la rencontre des invités. Alors, c'est d'abord Yvette Omeran pour Le Chant du Strigoï. C'était le prix La Cour de l'Imaginaire en 2012. Brigitte Dujon, Vers les Terres Insoumises, prix La Cour de l'Imaginaire en 2013. Et Sonia Kemener pour Des Paysages, Les Paysages d'Après. Yvette Omeran nous vient d'Avignon, Brigitte Dujon nous vient de Marseille, et Sonia Kemener nous vient d'Évreux. Allez, vous me suivez, nous allons les rejoindre tout de suite dans ce lieu magnifique où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de passionnés.
Tout d'abord, il m'incombe de vous présenter La Cour de l'Imaginaire. Alors l'aventure a commencé en 2011, lorsque Raymond et Josette m'ont embarqué sur la station Hiss, afin de venir en aide à un éditeur lorrain qui était en panne de comité de lecture. Donc on nous a chargé de gros cartons de manuscrits en nous demandant d'en extraire la substantifique moelle, bien sûr. Et on a beaucoup travaillé, ça nous a pris plusieurs mois. Et on a, entre nos mains sont passés deux ou trois excellents manuscrits dont on n'attendait qu'une chose, c'est qu'ils soient édités. Or, le grand malheur, c'est que ces manuscrits qu'on avait beaucoup aimés n'ont jamais été édités, tout simplement parce que l'éditeur, au nom de sa sacro-sainte et intangible ligne éditoriale, eh bien, est passé à autre chose. Voilà. Alors, bien, une énorme frustration s'est abattue sur nous, et c'est de là que nous avons créé La Cour de l'Imaginaire, avec une mission, celle de venir en aide, en quelque sorte, à toute cette production française qui tombe dans les oubliettes du fait que, justement, ils ne trouvent pas à se faire hésiter. Alors voilà, on a volé nos propres ailes et on a mis au point un site internet par lequel on a fait un appel à texte de manuscrits, je dis bien de manuscrits, donc du texte à l'état brut. Et grâce à internet, nous avons pu justement toucher l'ensemble du monde francophone. Alors on a des manuscrits qui sont venus du Luxembourg, de Belgique, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire. Et on ne désespère pas un de ces jours de recevoir, qui sait, un manuscrit d'un auteur manchot de la Terre Adélie. Tout est permis. Alors nous recrutons donc des textes relevant exclusivement du domaine des littératures parallèles, fantastique, science-fiction et autres mauvais genres. Des textes donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, totalement inédits, mais des textes de qualité. On a deux critères d'exigence, la qualité de l'écriture et l'originalité. J'attends que tout le monde soit placé. Des textes 100% français et garantis avec OGM, Écocert n'est pas passé par là. Ceci afin de permettre à un auteur débutant d'avoir accès au sein des saints, c'est-à-dire à l'édition papier. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore arriver à se faire éditer par Internet quand on n'a pas de contrat d'éditeur. Mais enfin, Internet, ça touche justement un lectorat particulier de jeunes qui vont sur Internet pour lire, etc. Mais pas le lectorat traditionnel. En l'espèce, les éditions La Cour de Nîmes, une maison d'édition qui est originaire de Haute-Garonne, qui est dans l'écriture depuis 1791. C'est un beau score. Et qui s'est bien implanté dans le sud de la France, qui est moins connu ici, alors qu'il y a quand même un certain nombre d'auteurs lorrains qui sont édités chez La Cour à Nîmes. Cette maison d'édition étant une maison d'édition régionale, donc à visée surtout historique, régionale, etc. On fait des livres de cuisine et pas du tout de l'ASF ni du fantastique. C'est pourquoi on a conduit d'une certaine façon cet éditeur à labourer sur des terres totalement ingrates et d'elles inexplorées. Et nous l'en remercions d'ailleurs ici ce soir, bien que les éditions La Cour soient absentes, elles n'ont pas pu faire le déplacement, mais elles sont ici remerciées tout à la fois par nous-mêmes, La Cour de l'Imaginaire et les auteurs. Alors ce café littéraire placé sous l'égide de Falidor, la Fédération des associations littéraires de Lorraine, et de son président ici présent, Charles Lancé, qui nous a fait l'honneur de venir ce soir, et qui prendra la parole tout de suite après moi pour vous présenter Falidor. Ce café littéraire donc officialise le lancement de cette collection imaginaire. Il se veut avant tout un événement festif, et nous tenons à vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir tous ici ce soir, pour rencontrer des nouveaux talents que nous venons de recruter dans cette soirée animée par Yves Issartier de Radio Caraïbes Nancy et également animée par Pierre Stolz, auteur lorrain de science-fiction et critique littéraire, grâce auquel, fort heureusement, la maison Huchère n'est toujours pas chutée. On l'en remercie donc chaleureusement. Merci Pierre et bonne soirée à tous.
Bien, alors, nous recevons aujourd'hui donc des représentantes de la collection imaginaire. La première chose que j'ai fait, c'est me précipiter sur mon dictionnaire et j'ai cherché la définition de imaginaire. Alors je vous propose une définition et puis vous me direz peut-être après si vous en êtes d'accord ou est-ce que c'est ce que vous appliquez. Alors, l'imaginaire peut être défini sommairement comme le fruit de l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, produisant des images, des représentations, des récits ou des mythes plus ou moins détachés de ce qu'il est d'usage de définir comme la réalité. Alors, est-ce que vous êtes hors de la réalité? Je vais commencer par Brigitte Dujon, qui se trouve plus près de moi.
Hors de la réalité, non, ça ne me dit absolument rien, non. L'imaginaire, c'est tout. Moi, j'ai l'impression que ça recouvre absolument tout et que ça n'est pas circonscrit à des choses insaisissables et qui ne seraient pas concrètes et puis immédiatement accessibles. Voilà, c'est mon sentiment.
Yvette Améran.
Qu'est-ce que la réalité ? La réalité, ça n'existe pas, c'est un mythe, c'est un fantasme. Et ce qui m'intéresse dans les littératures dites fantastiques ou de l'imaginaire, c'est que c'est, comme le folklore, une sorte de dégradation des mythes de la religion d'autrefois. Les dieux, qui deviennent des vampires, des fées, la dame blanche, c'est donc une actualisation quelque chose qu'on peut rencontrer tous les jours, de quelque chose qui est universel et qui est une surréalité, c'est-à-dire quelque chose qui regarde des archétypes, qui revient de la base de l'esprit humain et pas simplement de ce qui se joue au niveau du siècle.
Et pour Sonia Kemener, alors qu'est-ce que l'imaginaire ?
Eh bien, je suis assez d'accord. Moi, je dirais effectivement, je vois bien ce mouvement des dieux qui, en quelque sorte, des archétypes qui se dégradent, qui descendent, mais les dieux eux-mêmes, d'où viennent-ils ? Ils s'ancrent dans la réalité. Donc, il y a un mouvement de va-et-vient, il y a une espèce d'épousaille entre la réalité et l'imaginaire. Je pense que les deux sont indissociables.
Yvette Omeyran, qui a obtenu le premier prix Lacour de l'imaginaire en 2012 pour Le chant du Strigoï.
Oui, c'est le terme roumain, comme oupir et vampire, qui n'était pas utilisé tout de suite au XVIIe siècle. Il y avait plusieurs mots qui étaient en rivalité, en quelque sorte. Et Strigoï, vous ferez le lien avec la Strige. Et la Strige, déjà, mangeait les petits-enfants du temps des Grecs. Alors, c'est toujours des personnages qui sont extrêmement sympathiques. Et le Strigoï est réapparu, en travaillant un petit peu sur les légendes de Roumanie et de Transylvanie. J'ai trouvé un chant folklorique qui était très beau, le chant du Strigoï, et qui dit « Où sont les cœurs ? Où est le sang ? Où sont les loups ? Où sont les biches ?» C'est un chant tout à fait mélancolique, beau, et puis un petit peu énigmatique, parce que n'étant pas, ne faisant pas partie de cette culture, on ne la comprend pas complètement, juste assez quand même pour que ça nous intéresse. Et à partir de ça, je me suis dit, je vois qui est le Strigoï, et ce sera le roman qui sera le chant du Strigoï.
Donc, on peut présenter un peu plus Yvette Omeyran. Donc, vous avez entendu à l'accent chantant qu'elle est provençale, mais elle a grandi à Metz. Et j'ai lu quelque part qu'elle disait « Je suis la fille du Graouli ». Alors pour ceux qui ont côtoyé un petit peu les environs de Metz, vous savez ce qu'est le Graouli. Donc elle dit qu'elle est la fille du Graouli. Et puis elle a suivi des études littéraires à l'université d'Avignon. Ces différentes mutations l'ont amenée en Alsace, ce qui a donné un autre petit... une autre petite tournure à son accent. Et puis, elle est repartie après à Lyon. Et maintenant, je crois que vous êtes retraité, on va dire ça comme ça, à Avignon. Alors, vous avez une spécialité, c'est la littérature médiévale et puis la mythologie celtique. Et d'ailleurs, vous l'utilisez beaucoup dans le chant du Strigoï. Et quand on vous pose la question « Quels sont vos intérêts ?», vous commencez par dire « Les loups et les chiens nordiques ». Ensuite, les civilisations celtiques et gallo-romaines, la littérature médiévale, bon, jusque-là, moi je suis, hein, et l'histoire du Premier Empire. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de hiatus, là, non, vous expliquerez.
Effectivement, dès qu'on parle de vampire, on parle de manipulation. Puisque le vampire, il faut bien penser que tous les vampires n'ont pas les canines sanguinolentes, tous les vampires ne viennent pas de Transylvanie. Mari abusif, patron abominable, parent trop possessif, enfant trop ingrat. C'est ça, le vampire. C'est ce qu'on appelle. Alors maintenant, on appelle ça les pervers narcissiques. Moi, j'appellerais ça, c'est l'égoïste. L'égoïsme avec un grand H, si je puis dire. Le super égoïste, celui qui vous prend tout, qui vous suce tout. Mais alors, c'est pas tellement le sang, quelque chose de réel. Votre jugulaire ne risque rien. Mais il va vous prendre votre temps. Il va vous prendre votre énergie. Il va vous prendre votre vie. Il va vous prendre tout petit à petit, glou, glou, glou. Et le plus beau, c'est que c'est pas seulement un prédateur, c'est un manipulateur. C'est-à-dire, comme beaucoup de personnages égocentriques, le vampire est un personnage séduisant, agréable, présentant bien, sachant bien vous embobiner. Oh, il pourrait très bien être un gourou dans une secte, par exemple. Je ne parlerai pas de la politique, ça nous fâcherait peut-être avec certaines personnes. Mais enfin, vous voyez le type du personnage. La différence, c'est que lui, c'est toujours, la relation que vous avez avec le vampire, c'est toujours à sens unique. Il est normal, par exemple, qu'un enfant vous prenne tout. Et comme on dit dans Pagnol, quand on n'est pas un gougnafier, on n'attend pas que l'enfant vous le prenne. Vous lui donnez d'abord. Ça, c'est une relation normale, c'est sain. Par contre, le vampire, lui, ce n'est pas sain. Il vous pompera du début jusqu'à la fin. Et quand vous serez mort, plop, 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 il vous poussera sur le bord. Remarquez que dans la réalité folklorique, si je puis dire, le vampire dévore toujours, c'est un petit peu oublié par la littérature moderne, dévore toujours d'abord les siens, il mange d'abord sa famille. Songez à certaines familles où vous avez, voyez bien, qui voyez-vous en vampire ? Ne me dites pas, c'est le grand-père, c'est la grand-mère, c'est la grand-tante. Voyez bien que c'est d'abord les proches que le vampire pompe. Et voyez que le vampire est immortel, il ne meurt jamais. Voyez combien de fois quand les gens sont véritablement vampiriques, ils meurent. Enfin, Dieu merci, si je puis dire. Mais après, voyez bien que leurs enfants continuent à être déformés et à porter en quelque sorte, je dirais de manière large, une malédiction, c'est-à-dire une déformation. Que même, ils vont traiter leurs enfants par rapport à la manière dont ils ont été traités. Et que souvent, sur plusieurs générations, vous pouvez voir comme ça la marque du vampire. Eh bien, c'est ça, le vampire. Remarquez que la plupart des grands auteurs, ceux qui ont créé le vampire littéraire, j'entends, à partir du folklore lointain de la Transylvanie paysanne, donc par exemple Polidori, qui a écrit donc parfois les histoires de Lord Ruthven, qui a été le premier vampire et le premier vampire aristocratique, ben, il était dévoré, vampirisé par Lord Byron, qui était un personnage génial. Mais alors, l'égoïste total, il n'y avait que lui qui vivait. Tous les autres n'étaient là que pour lui. On dirait, c'est un vampire. Il a vampirisé au point que le malheureux Polidori, il a écrit son livre. Mais il n'en a jamais profité. Ce livre a été connu dans toute l'Europe. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde en a donné le bénéfice, en a accordé le bénéfice à Lord Byron, qui n'a même pas essayé de le prendre. Il a vampirisé même sans le savoir. Bram Stoker, qui a écrit Dracula, c'est lui qui l'a rendu, donc ce n'était pas le premier, c'est celui qui lui a donné, disons, ses lettres de noblesse. Ben, lui a été dévoré par Sir John Ingving, qui était un acteur très connu, et qui l'a fait travailler pour lui entièrement, pour toute sa vie, il ne travaillait plus que pour lui. Il a été vampirisé. Et c'est à partir de ce vampire qu'on appellerait peut-être maintenant le vampire psychique, le vampire trop humain en quelque sorte, que s'est développée à l'époque moderne la figure du vampire littéraire à partir de folklore un peu oublié et qui était, disons, à l'époque quand même pas mal exotique, puisque déjà Voltaire s'en moquait à l'époque en disant « on avait des vampires, oh ben vous voyez, maintenant on n'en a plus ». Puis comme c'était un petit marrant, il disait « oui, sauf bien sûr les rois qui continuent à s'engraisser sur le dos des peuples et qui sont les véritables vampires ».
Ah oui, j'ai eu la grande chance de lire en avant-première le chant du Strigoï. Et j'avoue que j'en suis resté absolument épaté. Alors, épaté de voir un premier roman de cette qualité littéraire. Alors, pas simplement parce que c'est bourré d'allusions littéraires, un tas d'auteurs, mais la qualité de l'écriture absolument extraordinaire. Je me suis dit, mais où sort cette Madame Yvette ? Alors maintenant, j'en sais un peu plus. Mais rien que pour ça, je recommande absolument ce livre, dont j'ai fait d'ailleurs une critique absolument élogieuse dans cette revue Bifrost, sortie au mois d'avril. J'ai absolument 2 pages et demie de pur éloge, mais je ne parlerai pas autant que Yvette, qui parle beaucoup mieux que moi. Il faudra laisser aussi un peu de la place aux autres.
Oui, donc alors, du point de vue, disons, le plus basique de l'action, c'est une trahison, donc une séduction, une trahison et une vengeance. Bon, voilà, ça c'est, disons, la première partie. La deuxième partie, c'est, disons, psychologiquement, la manière dont un être peut, surtout jeune, ça va plus facile, peut donc entrer en résilience et donc se reconstruire après une agression de la sorte et ne pas subir un destin donc qui a été choisi pour lui, à sa place, qu'il est contraint. Et on peut aussi, enfin, ça peut être lu à plusieurs niveaux, c'est ça qui est intéressant, vraiment le meilleur des desserts, c'est quand même le millefeuille. C'est aussi un itinéraire spirituel, puisque... vous savez, par exemple, Jean Marigny, l'historien du vampire, dit qu'il y a 2 personnages qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. C'est le saint et c'est le vampire. Le vampire, il prend le saint, la vie, la grâce divine, il garde tout pour lui. Donc il fait en quelque sorte un hiatus dans l'univers, dans cet équilibre. Et par contre, le saint, lui, il rend tout. Il se vide entièrement, il se donne entièrement jusqu'à être, n'exister qu'en creux. Un creux qui sera rempli, Dieu, la grâce divine... Donnez ça le nom que vous préférez. Et donc cet itinéraire, c'est pour un flic au départ pas très sympathique, froid, psychorigide, agressif, qui a lui-même une partie noire, qui aime faire souffrir, etc. Comment il va, par rapport à ça, se reconstruire? Et donc son itinéraire, donc du vampirisme à la sainteté. Donc quand on écrit, à la fois on se fait plaisir, on s'exprime, et on essaie quand même de penser à ceux qui vont lire. Alors j'ai essayé, par exemple, de simplifier un petit peu mes phrases. Là, mon directeur de collection pourrait le dire, il était obligé de me donner des coups de bâton sur la tête parce que j'ai tendance à abuser justement du lyrisme, des adjectifs, des phrases, etc. Mais c'est pour mon bien. C'est pour mon bien qu'il me donne des coups de bâton sur la tête. Et de simplifier en faisant quand même des paragraphes assez aérés. Mais pour le reste, je ne veux pas faire du jeunisme. Je veux pas. Je vois mes étudiants que je forme toute l'année, puisque je suis bibliothécaire, je suis conservateur donc dans une bibliothèque universitaire. Je ne veux pas les tirer vers le bas. Je ne veux pas descendre vers un niveau simple du français basique avec 200 mots en leur disant mais comme ça, moi je veux avoir l'air d'être jeune, etc. Et les jeunes, ils vont me lire. Non, moi je parle, j'écris comme j'aime. En plus, ben, les mots, ben, c'est des mots que j'utilise. J'ai tendance peut-être à une certaine préciosité, eh bien ça fait rien, on le garde. J'aime beaucoup lire Robert Merle par exemple, qui est extrêmement riche, et j'adore aussi tout ce qui est les langages régionaux qui ont plein de termes délicieux que j'aime bien conserver, et aussi des choses dans le temps. Et je n'aime pas la bouillie qui est servie comme ça en prédigéré. Ne parlons pas de certains vampires phosphorescents ou de certaines chasseresses de vampires la nuit, que d'ailleurs qui m'amusent dans les aventures, m'amusent beaucoup, mais moi je tenais à exprimer autre chose. Et plutôt, effectivement, si c'est des jeunes qui lisent, je préfère les tirer vers le haut. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous ouvrez un dictionnaire. Voilà, c'est ça, et vous apprenez. Mais c'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup collectionner les mots. Quand je trouve un nouveau mot, je suis toute contente. J'essaie de le glisser dans la conversation. Prolégomène, je vous assure que ce n'est pas facilement que j'arrive à le glisser dans la conversation. Hein. Là, j'ai réussi, hein, je suis contente, je me donne un bon point. Vous me mettez un bon point sur le...
Il y a l'influence de la littérature médiévale, médiéviste même. Et puis il y a les influences des littératures orientales, japonaises même.
La direction celtique, ce n'est pas volontaire, ça fait partie de moi. À Avignon, donc nous faisons des recherches très nombreuses sur la littérature médiévale, donc c'est là que j'ai pris le virus. Et effectivement, là, ce qu'on appelle la matière de Bretagne, ça imprègne une bonne partie justement des romans de chevalerie, de la littérature épique, etc. Donc le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, etc. Remarquez le nom de Gawain, est une déformation galloise de Gauvain. Gauvain est le chevalier solaire. Il prend des forces à midi, il perd les forces quand le soleil baisse. C'est un personnage tout à fait sympathique, mais un peu mondain par rapport à Lancelot. Alors, il aime beaucoup secourir les demoiselles en détresse, c'est le chéri de ses dames, c'est le neveu du roi Arthur, donc c'est pour dire son fils, puisque chez les Celtes, c'est pratiquement le neveu et quasiment un fils. C'est un personnage presque trop heureux, mais c'est un personnage qui n'a pas été... vampirisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été abusé et maltraité pendant sa jeunesse comme l'a été Gawain. Et Gawain, ça aurait été Gauvain si ça avait été un enfant heureux, épanoui et qui se soit après développé. C'est ça que signifie la chose. Normalement, ça doit être un personnage solaire, tandis que là, c'est marqué, c'est un personnage qui est lié à la lune. Alors, le fait qu'il soit irlandais et gallois, c'est à la fois non seulement bon, d'être un bagarreur, ça, je veux bien le croire, mais c'est aussi donc, un personnage celtique, donc, qui est tout à fait, pour lequel il est tout à fait normal que la réalité, comme vous le dites, est pour le moins double. Elle est poreuse. C'est-à-dire, vous avez, et vous trouvez ça beaucoup dans le Moyen-Âge, l'au-delà n'est pas quelque chose qui est à part. L'au-delà, il est juste derrière la réalité. Là, vous passez la porte, vous arrivez, j'ai une petite cour avec un joli puits, avec un lion. Vous passez cette grille, vous êtes de l'autre côté. Vous n'êtes plus tout à fait de ce côté-là. Vous êtes passé de l'autre côté. Vous allez chasser naïvement avec votre meute. Vous voyez un cerf blanc. Vous poursuivez ce cerf blanc toute la journée. Le soir, vous êtes épuisé. Les chiens vous ont abandonné, vous avez perdu la chasse. Vous êtes épuisé, le cerf a disparu. Vous êtes de l'autre côté, une fée arrive, cette fée, la femme de l'autre monde. Voilà. Allez-vous revenir chez vous plus tard ? Peut-être, quand vous reviendrez, tous ceux que vous avez connus seront retombés en poussière parce que vous serez restés des siècles dans l'autre monde. Et donc c'est un personnage qui voit ainsi la réalité. Il est à cheval sur deux réalités, c'est un petit peu un chaman. Quand il voit quelque chose de, qu'est-ce qui est de plus simple et de plus banal qu'une vieille femme SDF qui ramasse ce qu'on appellerait des estrasses, le midi, hein, des cochonneries, des chiffons, qui entassent ça dans son caddie. Mais cette femme, elle est blanche, elle est habillée de noir, elle porte des bottes en plastique, des Gommetscheffel, elle porte des bottes en plastique rouges. C'est la déesse mère, c'est la dame blanche. Et on lui doit le respect, et quand elle traverse la boue, on pose son manteau au sol pour la faire passer. Parce qu'on est capable de reconnaître, dans un personnage aussi insignifiant et méprisé qu'une vieille femme, que certains qualifieraient à tort de poivrotte, la dame blanche, la banshee, la bonne fée, et donc un des avatars de la déesse mère. Et c'est comme ça qu'il verra tout le temps le côté de la réalité et le côté du mythe qui ne sont jamais séparés chez les Celtes et qui sont toujours en interpénétration l'un de l'autre.
Pierre Tolls, je crois que tu voudrais compléter quand même.
Juste un dernier mot pour comprendre qu'en fait le roman de Yvette se lit très très bien. Faut pas croire que parce qu'il y a des mots compliqués ou des phrases longues que c'est difficile à lire, non. Ce qui est magnifique chez elle, c'est le sens de la comparaison de la métaphore. Alors je prends juste un exemple que j'ai repris dans mon article, c'est comment décrire une petite fille. Il y a plein de façons de décrire une petite fille. Voilà la description que nous propose Yvette. C'était propre comme une savonnette à la lavande, lisse et rose comme une dragée de première communion, délicat comme un nid caché dans la mousse.
Voilà, je vous présente Ariane Perdigal qui anime avec moi cette émission Marque-Page.
Ce ne fut pas le bruit qui le réveilla, il n'y eut pas de bruit à proprement parler, seulement l'infime déplacement d'air provoqué par l'ouverture d'une porte lointaine. Il ouvrit les yeux dans le noir et resta immobile, étendu sur le bas flanc de son cachot dont il sentait, sous sa paume, la surface froide et grenue. Tout d'abord, il n'entendit rien d'autre qu'un silence marmoréen, puis des pas se répercutèrent démesurément sous les voûtes riches d'écho. Plus de doute, des intrus envahissaient son territoire. Le sang belliqueux de ses ancêtres pulsait dans ses veines, tandis que, se levant d'un bond, il s'avançait au-devant d'eux tout au long des corridors obscurs. Il avait oublié de ressentir de la surprise ou de la crainte, n'éprouvant qu'une irritation vague à l'idée que des perturbateurs s'apprêtaient à profaner la quiétude de sa retraite. Une irritation qui n'était pas encore de la colère. Il n'eut pas l'idée de se terrer dans les souterrains, ni de s'esquiver par une issue dérobée. Après tout, il appartenait à la caste de ces chevaliers qui, les armes à la main, défendent les ponts et les guets de leur royaume. Deux silhouettes s'affairaient dans le hall monumental. Qui étaient ces importuns et que venaient-ils faire en ces lieux? Étaient-ils seuls ou en compagnie d'autres fâcheux? Tendant l'oreille, Galwen ne perçut à l'extérieur du bâtiment, au-delà du mur d'enceinte et de la lourde porte blindée du pénitencier, dont les deux battants, soudés par la rouille, restaient définitivement ouverts au vent salé du large, que le doux reclamant d'une coque de navire contre le bois du ponton, dans la petite crique abritée de la houle. Se faisant aussi silencieux qu'un courant d'air, il rasa les murs et se fondit dans l'ombre pour s'approcher d'eux sans leur donner l'éveil.
Comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui chantent la nuit, comme un satin de blanc marié dans le port de cette nuit. Une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Cheveux qui tombent comme le soir. Il y a de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, des mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blouses qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Eh bien, on peut passer peut-être à notre deuxième auteur, prix donc, de la Cour de l'Imaginaire 2013, c'est tout récent. Hein. Alors, Brigitte Dujon, Vers les terres insoumises. Brigitte Dujon, j'ai lu que vous écrivez depuis l'âge de 7 ans. Alors, elle écrivait pour son chien, les aventures de son chien, c'est
ça? Pour ma sœur, pour ma petite sœur.
C'était pour la petite sœur. Hein.
Voilà, les aventures du petit chien de vie.
Et puis, vous avez continué à écrire la saga familiale. Vous l'avez toujours, cette saga familiale?
Ah, non, non, je n'ai fait que les fiches. En fait. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, j'avais voulu écrire une saga familiale qui comptait 20 personnages principaux, pas moins. Et donc, j'avais fait des fiches pour chacun qui étaient extrêmement élaborées. Et finalement, ce récit s'est borné à ces fiches qui sont quelque part dans une boîte. Voilà.
Qui sortiront peut-être un jour.
J'en doute un peu. C'était beaucoup, 20.
Alors, donc, plusieurs romans, et Le Matin des voleurs a obtenu le prix marseillais du polar. Il a été finaliste.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Il était finaliste au prix marseillais du polar ou du polar marseillais, je ne sais jamais. Ouais, voilà.
Mais il a eu beaucoup de succès.
Bah, écoutez, il a bien plu aux personnes qui l'ont lu, oui, je crois.
Et puis, vous avez eu un prix aussi au concours des nouvelles, il y a très peu de temps, de Marseille. Hein, c'était un concours toujours.
C'est, dernier,
c'est, hein, c'est avec la tresse. C'était il y a quelques semaines, à peine.
Oui, c'est ça. Il y a quelques semaines, oui. Ouais, ouais, c'est le dernier que j'ai obtenu. En fait, je crois que c'était la mention spéciale du jury, il me semble.
Donc, bien sûr, le prix de la Cour de l'Imaginaire 2013. Alors, Vers les terres insoumises, Pierre. Je m'adresse à Pierre parce que je suis j'ai beaucoup de difficultés à qualifier ce roman, ces petits chapitres très courts, ce genre de flash comme ça qui arrive. Aide-nous.
Oui, moi j'ai bien énormément aimé ce roman, parce qu'il y a dans ce roman un sens inné du récit et un sens inné du point de vue. Tout le roman va prendre deux points de vue, le point de vue d'un petit garçon malingre et tout, et le point de vue de la mère. Le point de vue du petit garçon sera toujours à la première personne, le point de vue de la mère à la troisième personne. Et c'est que par petits fragments, qu'on va se rendre compte que ce monde idéal dans lequel vit une famille est en fait un monde absolument épouvantable. Exactement le monde des contes de fées, les contes de fées qui sont toujours très cruels. Il y a d'ailleurs énormément de rapports, par exemple, au Petit Chaperon Rouge ou à d'autres contes. Et ça ressemble beaucoup, mais en renouvelant complètement le genre, au Meilleur des mondes de Huxley. Mais à la fin, c'est toute une ville qui vit sous un dôme, complètement protégée. Pour se protéger, éviter une démographie galopante, on va faire des sacrifices absolument épouvantables et dans une espèce d'indifférence générale, parce que tous les gens vont essayer de se priver de tout sentiment. On ne va plus rien éprouver, ni chagrin, ni pitié, ni plus rien. Si on tue des enfants, ben c'est normal, c'est pour la sauvegarde de la cité. Et le jeune héros, lui, forcément, va réussir à se sortir de cette cité. Mais là, je ne veux pas raconter comment.
Il ne faut pas raconter, mais alors, maintenant, la présentation, le style, déjà la forme d'écriture, c'est des chapitres très courts. Il y a une bonne trentaine de chapitres, me semble-t-il. Hein, des chapitres très courts. Et puis, une sorte de pivot, une sorte d'axe central, le fameux 21 mars.
C'était ce qu'on appelle une novella, c'est-à-dire une nouvelle un peu longue, et qui ne donnait que le point de vue de la mère. Et donc, en fait, elle se situait, ce fameux 21 mars, c'est ce que j'ai mis ? Oui, c'est ça. Voilà, ce fameux 21 mars. Et donc, c'était l'évolution de l'histoire, cette journée-là, vue par la maman. Et puis ensuite, en fait, je me suis posé la question de ce que ressentait, de ce que vivait l'enfant dont elle parle, en fait, qui donc est Raphaël. Et donc, j'ai voulu mettre en contrepoint la même histoire vue par l'enfant, en fait. Voilà.
Alors, on va peut-être passer à une lecture. Vous voulez qu'on lise un petit extrait ?
Ah oui, volontiers.
On va demander à notre crocu.
Allez, il faut le dire le. Je tiens le bouchon. Je change le sang que on s'en occupe.
Allez, je le fais bien. Merci. Alors, c'est le chapitre Loup, y es-tu ? Le 21 mars à 5 heures. C'est le froid qui tire Ava de son cauchemar, un étau glacé qui lui broie les épaules. Les paupières collées par le sommeil, elle rampe à l'aveuglette vers le corps de Marc, se colle à son flanc brûlant, sa grippe aux poils bouclés de son torse nu, enfouit son visage dans le creux de son aisselle et en renifle à petits coups le parfum musqué. Le mauvais rêve se dissipe lentement. Le méchant loup recule le premier, la démarche en coin, les épaules tombantes, la gueule au ras de terre, et finit par se détourner d'un bond pour disparaître, sa longue queue entre les pattes. Ensuite, c'est le tour des enfants. Puisque le loup est parti, c'est que le jeu est fini. Ils cessent donc de cavaler en se dandinant sur leurs petites jambes, leurs cris stridents meurent sur leurs lèvres. Suspendus dans leur élan, interrompus dans leur fuite, désormais sans objet, ils lévitent un instant dans l'esprit enfiévré d'Ava, incertain. Puis leur bouille d'ange, jusqu'à Raphaël, Ava n'a fait que cela, des gosses à bouille d'ange. Leurs joues veloutées, leurs boucles d'or et leurs cuisses potelées se superposent, se confondent, se délavent comme s'il pleuvait sur une aquarelle, et tout s'apaise. Ava n'a jamais osé confier son rêve à Marc. Il la raillerait. « Allons, tu es trop vieille pour croire encore au grand méchant loup. » Surtout, il lui en voudrait de mêler leur fils à des contes de bonnes femmes et lui assènerait ce regard offensé, lourd de reproches, paupières à demi tombées, qui jette le chaos dans l'esprit d'Ava et lui ôte jusqu'au courage de continuer à respirer. Ava se répète donc que son mari lui dirait ce que la conseilleuse lui serène, « Le loup n'existe pas, Tout est en ordre, ses enfants ont brillamment joué le jeu et fait honneur à la famille, honneur à la cité. Il ne faut plus y penser, pas même en rêver. Elle sait tout cela, il faut juste qu'elle se le répète chaque jour et qu'elle applique les instructions à la lettre.
Vous aimez la phrase, vous aimez donner un sens à la phrase.
Oui, c'est-à-dire que ça en fait, c'est un long apprentissage. C'est un apprentissage vers, comme vous dites, un langage qui soit net, épuré, clair, immédiatement compréhensible. C'est je ne sais plus quel auteur qui disait, en fait, moi, quand je corrige, si je n'ai pas supprimé 30% de ce que j'avais écrit, c'est pas bon. Et puis la chasse aux adjectifs, aux adverbes, en fait, etc. Ben, pour que ce soit, en fait, le plus limpide possible, oui. C'est ma recherche.
Alors, quand vous avez été maman, vous aviez craint, je crois, de ne plus pouvoir écrire après ou d'avoir quelques difficultés. Pourquoi ?
Oui, ben, il me semble que c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'en fait, création, procréation, il fallait choisir. Hein, il me semble que c'était un petit peu ça. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question à un moment donné, je ne sais pas si c'est arrivé pour mes collègues, mais lorsqu'on écrit, de se dire, est-ce que finalement c'est vraiment ça ? Est-ce que la procréation ne va pas faire que je vais devenir incapable d'écrire une ligne ? Et c'est vrai que ça me préoccupait. Mais j'ai lu, c'est Nancy Houston qui en fait a très très bien exprimé et dit qu'en fait non, pas du tout. C'était au contraire un accès supplémentaire qui était donné à un autre imaginaire qu'on portait en soi. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup ressenti. C'est-à-dire que je crois que c'est du moment où j'ai eu ma fille que je me suis mise à raconter des histoires qui parlaient d'autre chose que de mon nombril ou de moi. Voilà, ce qui est...
Ça a été un acte, une transition.
En tout cas, j'ai remarqué après coup voilà, qu'il y avait des différences entre ce que j'avais écrit avant et ce que j'avais écrit après. C'était pas prémédité. Hein.
Pierre Tolls, quelques commentaires.
Alors, oui, là, je vais faire plutôt un commentaire général, puisqu'on est là maintenant à la deuxième auteure. C'est ce qui m'a fait plaisir dans ces trois livres, parce qu'après, on va passer aux quatre Sonia, c'est de voir trois femmes débutantes et qui en reviennent aux fondamentaux du fantastique et de la science-fiction. Enfin, trois femmes qui ne font pas de l'héroïque fantasy et de la bitlite. Moi, l'héroïque fantasy avec les sorciers, les magiciens, les dragons, les elfes et les gnomes, j'en ai jusque-là. Ou autrement, toutes les femmes font de la bitlite, c'est-à-dire la littérature qui mord. Même maintenant, dans les librairies, vous avez un rayon bitlite. Bitlite, bite, mordre, littérature. Alors, c'est Bûcher contre les vampires. Alors, le texte type de bitlite, c'est une jeune femme qui vient se reposer dans une petite ville américaine. Or, elle se rend compte brutalement que cette petite ville est bourrée de vampires, de loups-garous, de zombies et tout. Et pendant tout le roman, elle va passer son temps à déquiller tous ces gens-là. Puis très fatiguée, elle va aller dans une autre ville. On est envahi par ça actuellement. Et enfin, trois femmes, mon Dieu, qui reviennent à de la bonne SF avec des thèmes classiques, bien renouvelés, qui reviennent aux fondamentaux. Et ça, ça fait plaisir. D'autant plus que la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, on manque de fab. Voilà. Thank you.
Sonia Kemener, le paysage d'après. Alors, Sonia Kemener, vous avez vécu longtemps dans les dom-tom. Hein, on en parlait tout à l'heure. La Réunion, l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie.
23 ans au total.
23 ans. Et l'influence, elle est là, quoi. Hein.
Alors, moi, je m'en rappelle. Pas trop compte, je sais simplement que j'aime beaucoup l'océan, que ce sont des images qui m'habitent constamment, celles de l'océan. Donc je suppose qu'il y a un rapport. Le ciel, j'aime les grands ciels. Mais sinon, c'est pas une influence dont je suis vraiment consciente.
Alors, vous êtes une passionnée de SF. Maintenant, vous n'êtes plus dans les dom-toms, mais vous êtes à Évreux. Oui. Et vous êtes passionnée de SF et vous êtes traductrice. Vous avez traduit une bonne douzaine d'ouvrages déjà, non ?
Alors, plutôt une quinzaine. J'ai traduit beaucoup d'Heroic Fantasy, parce que, voilà, c'est ce qui se vend. J'ai traduit de la science-fiction, des nouvelles de Banks, les deux derniers romans de la trilogie de Karen Loachy. Et je pense que c'est un petit peu par la traduction que j'en suis venue à écrire. Mais c'était quelque chose qui me travaillait depuis longtemps, la traduction, bien que je fisse tout à fait autre chose, puisque j'étais informaticienne de gestion. Mais en fait, quand j'y réfléchissais, l'informatique de gestion et la traduction, il y a un rapport entre ces deux fonctions, c'est que ce sont des métiers de l'effacement. C'est-à-dire qu'un informaticien de gestion, quand il programme bien, il ne faut pas qu'on se rende compte de ce qu'il a fait. Il faut que ça soit naturel. De même, un traducteur, c'est un petit peu ça. Il faut qu'on oublie que le texte a été traduit quelque part. Donc, ce n'est pas si aberrant quoi, comme changement.
Je pense que souvent, on oublie le travail du traducteur. Et on a de plus en plus d'excellents traducteurs, ce qui fait que l'on a accès de plus en plus facilement à la littérature étrangère.
Oui, c'est ça. Il y a 12 nouvelles. Alors, j'écris, contrairement à mes consoeurs, j'écris depuis peu. Au moment de ma crise de la quarantaine, donc j'ai décidé d'être traductrice et je me suis mise à écrire. Et la chose s'est faite peu à peu, c'est-à-dire qu'au départ, j'écrivais par fragments, déjà des vers. Ça, je continue à en écrire parce que je trouve que c'est un très bon exercice.
C'est très joli poème.
Ah, merci. Et des micro-nouvelles, des fragments. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que j'étais capable de réussir à écrire une histoire que je m'étais auparavant racontée. C'est ma démarche. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé peu à peu par la pratique. Voilà, je peux pas dire autrement.
Mais la nouvelle, c'est un exercice difficile. Ce n'est pas un petit récit. C'est un exercice difficile avec des codes tout à fait différents que le roman.
J'ai toujours adoré les nouvelles. Et notamment, je trouve que la science-fiction est un genre particulièrement adapté aux nouvelles parce qu'il s'agit de monter un univers, de rendre quelque chose de cohérent et qu'ensuite cet univers continue, dans l'idéal, continue à parler à l'esprit du lecteur une fois l'histoire terminée. Et de ce point de vue-là, j'aime bien l'idée d'une nouvelle, c'est-à-dire d'une plongée brève, rapide, mais qui laisse, mais profonde, qui laisse des traces. Donc j'ai toujours lu énormément de nouvelles, soit en science-fiction, soit en littérature générale, et je pense que c'était naturel pour moi de commencer à écrire dans ce format. Quant au code, oui, il y en a, mais je pense que je m'en suis plus ou moins imprégnée, mais je serais tout à fait incapable de dire lesquels. Beaucoup de choses se passent chez moi au niveau en dessous de la conscience.
Oui, très bien. La nouvelle s'appelle « Des dangers de la recherche ». Et c'est bien sûr Ariane Perdigal qui nous lit ce texte.
Et parfois, en été, quand les soleils malsains, lassent, la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne. Charles Baudelaire, la géante. Heureusement, elle ne sortait jamais du sentier qu'elle battait. Elle criait sans trêve, pleurait à flots en arpentant la terre. Ses hurlements l'annonçaient, dégringolant de l'altitude de 5000 mètres, où sa bouche ouverte engloutissait l'air, les nuages, les missiles intercontinentaux qu'on lui avait envoyés en vain au trou des buts, mieux encore que ses pas de tonnerre. Nue, elle beuglait un chagrin incommensurable et marchait d'un pas rapide sur ses jambes kilométriques, créait de menus typhons en battant des bras, abattait les oiseaux en plein vol de ses cheveux tempétueux. L'impact de ses larmes et de sa morve creusait des cratères. L'eau, en s'évaporant, laissait derrière elle une couche non négligeable de poudre d'or et de platine pure. Elle ne s'était jamais arrêtée depuis les quelques 200 ans où l'on avait connu, depuis ce matin où elle avait abordé les côtes du Portugal, sauf pour effectuer un ou deux pas hors du chemin, en s'éloignant ainsi de 500 km environ. Aux mêmes emplacements, circuit après circuit, elle s'accroupissait et lâchait quelques hectolitres de kérosène rosé et ou des blocs de marbre gris jaspé d'or. Cette matière s'était révélée idéale pour la construction et la statuaire. La pire pollution ne semblait pas l'altérer. Après quelques brasses entre l'Argentine et le Portugal, elle traversait l'Europe, la Russie et la Sibérie jusqu'au détroit de Bering, puis dévalait des deux Amériques avant de reprendre le circuit. Elle se nourrissait en marchant d'immenses poignées de montagnes ramassées çà et là, mais acceptait aussi des offrandes aéronautiques de militaires fourvoyés ou d'adorateurs prêts à financer des drones cargo. On parlait d'une incarnation de la Terre-mère, blessée par les actes des hommes, d'une enfant extraterrestre punie ou oubliée par des parents harassés sur l'équivalent d'une aire d'autoroute, voire de la Vierge Marie affligée par les péchés du monde. Mais une Vierge Marie poilue comme un yak, ça passait assez mal. Et tout ce temps, elle marchait et braillait, assourdissant à intervalles remarquablement réguliers ceux qui venaient exploiter ses sous-produits et s'agenouillait avec révérence le temps qu'elle se fût éloignée. Juste après son passage, un jour dans la toundra, une faille s'ouvrit et le magma commença à s'en écouler. De jour en jour, l'abîme se creusait. Les vulcanologues convoqués parlèrent avec excitation d'une réouverture des trappes de Sibérie après 250 millions d'années. Le grand public apprit beaucoup sur l'extinction biologique de masse que, pensait-on, avait provoqué le phénomène à l'époque. Les foules affluèrent sur le chemin de l'ogresse, comme on disait aussi, pour la supplier. Elle ne réagit pas et continua son tour du monde qui, bien sûr, la mena à terme devant un océan de terre en fusion. Elle s'arrêta, parut surprise. L'air cessa de bouger, le sol de trembler autour d'elle. Elle ne pleurait plus, constatèrent les scientifiques étonnés. Enfin, elle avança dans le magma, s'allongea, tapota une colline proche avant d'y poser sa grande tête. Les rampants purent voir qu'elle avait les yeux verts, tendit le bras et rabattit sur elle, comme un drap craquant, une couche de roche. Elle poussa un soupir qui renversa les sismographes, ferma les paupières, s'endormit en souriant. On a installé moult capteurs autour de sa tête et juste au-dessus de son corps, là où le roc palpite au rythme de ses amples inspirations. Ses battements de cœur enregistrés ont le don d'endormir les nourrissons et les insomniaques. Elle se retourne parfois dans son sommeil, on aperçoit alors la lave qui fait sa bonne litière, la tient au chaud. L'expression de son visage apaisé sous les poils réconforte les humains.
Pierre Stolz, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre ou sur l'écrit de...
Oui, sur l'ensemble du recueil. En fait, le recueil, il y a d'abord un long récit, donc une novella, et ensuite 10 nouvelles beaucoup plus courtes. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que dans ces nouvelles, on a pratiquement tout l'éventail des thèmes qu'on peut trouver en science-fiction. Alors, c'est incroyable. Alors, j'ai noté, on a une histoire de monde parallèle, de monstres, de monde post-apocalyptique, de rencontres avec des extraterrestres, de résurrection du passé ou de temps à l'envers, d'expériences psychiques déstabilisantes. Aussi, c'est dans Marche en silence, où c'est un immense cauchemar. Un immense cauchemar qui m'a fait beaucoup penser à une nouvelle de Dominique Doué qui s'appelait Thomas, qui était aussi une nouvelle cauchemardesque, qui était en fait une expérience psychique. Et toutes ces nouvelles m'ont plu parce que c'est vraiment de la science-fiction qui se veut un peu subversive et qui nous force à nous interroger. Notamment dans la toute première nouvelle, qui est une nouvelle féministe, mais à la limite pratiquement féministe à l'envers, puisqu'on a là une milliardaire féministe qui a calculé pendant très longtemps à l'avance comment elle va faire pour se débarrasser de tous les mâles sur la Terre. Donc il n'y a plus que des femmes. Et en fait, c'est une nouvelle à chute, et puis on verra que ça va peut-être pas marcher. Voilà. Alors c'est pour ça que c'était intéressant de voir, pour un premier recueil, de voir cet éventail de thèmes science-fictifs est remarquablement revu et actualisé. Voilà.
Quand ils défilent les nuages en troupeaux serrés pelucheux, côté ciel blanc, terre grincheux, on adore leur paysage. Je crois entendre des ramages issus de ces gros corps poreux, braves ogres, protés heureux, le frais soleil dans leur sillage. Déterminés tels des vaisseaux, bien que matière de ruisseaux, ils agrémentent la campagne. On le dit, mais sont-ils légers ces débonnaires étrangers, éternels comme la montagne ?
Merci. Voilà, cette soirée fut une réussite, une belle réussite. Le public était nombreux et chaleureux. Et il faut féliciter et remercier les éditions Lacour. Il faut, je crois, féliciter et adresser un grand bravo à ceux qui ont organisé, à savoir Raymond Hiss, Josette Hiss et Nadia Harlet. Mais quelque chose me dit que nous les retrouverons bientôt autour de nos micros. Allez, bonne soirée, au revoir. Thank you.